cap justement sur la Tunisie. 1956, c'est une grande année. C'est d'abord l'année de son indépendance. C'est les 60 ans du droit de vote de la femme. C'est aussi les 60 ans du statut personnel de la femme qui est, faut-il le rappeler, un texte fondateur pour le modèle de société post-indépendance. Et nous avons, je pense que la ligne a été rétablie, avec nous depuis Tunis, Toraya Hamami Bekri. Vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour.
On vous retrouve.
Enfin avec vous.
En tout cas, merci de répondre à nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-présidente du Conseil national Atakatoul, c'est ce que je disais. Dites-nous d'abord, pourquoi cette date ? C'est un peu la remarque qu'on peut faire. Hein. Cette date est passée presque inaperçue. Il n'y a pas de grande célébration. Pourquoi ? On se trompe là ? Ou alors il y a eu effectivement des festivités qui n'ont pas été relayées par les médias ?
D'abord, bonjour à vous, Nadia. Bonjour à vos invités dans le studio et comme moi en ligne, à vos auditeurs, Ramzan Mabrouk, à tous ceux qui le célèbrent.
Merci.
Votre question tombe justement à point, à pic, parce que nous-mêmes, à Atakatoul, nous avons été étonnés que cette date très importante à nos yeux, normalement aux yeux de tous les Tunisiens et Tunisiennes, passe aussi inaperçue. C'est vrai que la date du 11 juin 1956 n'est pas très connue. Personnellement, elle n'était pas célébrée. Personnellement, la première fois où cette date a été célébrée, c'était juste après la Révolution, par le premier gouvernement transitoire, non élu, mais avant les élections d'octobre 2011. C'était la première fois que c'était célébré. Et c'est aussi... Ces célébrations servent à revoir ce qui s'est passé depuis, mais aussi à faire du lobbying pour faire avancer les choses et pour obtenir plus que ce que nous avions obtenu 60 ans plus tôt. Et donc, à cette occasion, nous étions à ce moment-là en plein débat parlementaire sur le projet de loi des élections locales.
Municipales. Et c'est bien passé. D'ailleurs, ça, c'est l'info qu'on va relayer aujourd'hui aussi. Hein. C'est une grande avancée.
Tout à fait. Donc, c'était une occasion rêvée, à mon avis, de fêter cet anniversaire. 60 ans, ce n'est pas rien. La Tunisie a été parmi les premiers pays à donner le droit de vote et d'éligibilité. Et donc, les Tunisiennes pouvaient non seulement être des électrices à part entière avec leurs
élus aussi,
citoyens,
oui.
Mais également, elles pouvaient se présenter sur les listes électorales et être élues. Pour rappel et pour un petit peu situer les choses, la France a voté ce droit en 44, l'Italie en 45, c'est-à-dire à peine une douzaine d'années avant la Tunisie. Le Maroc en 63, la Suisse en 71.
Bien après la Tunisie, bien sûr.
Voilà. Le Portugal en 76, donc il faut qu'on... Nous parlons aujourd'hui de droits acquis, mais il faut vraiment se rappeler et rappeler à tout le monde que ces droits ont été acquis très très tardivement parmi de nombreux pays.
Alors, historiquement, justement, la Tunisie fait partie, en termes de droits de femmes, justement, de pays avant-gardistes. Historiquement, pour revenir un peu sur le droit de vote des femmes, il faut dire qu'il n'a pas été le résultat d'une revendication de mouvements féministes. Hein. C'est aussi la volonté politique d'un homme qui a été visionnaire. C'était la volonté de Bourguiba qui a effectivement choisi un modèle de société où la femme devait avoir un rôle important.
Nadia, en fait, au lendemain de l'indépendance de la Tunisie, le choix fondamental qui a été fait par le leader Bourguiba à l'époque et par l'ensemble de la classe politique qui était autour de lui, de tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de la Tunisie, était donc de miser sur l'émancipation de la femme comme moteur du progrès, du progrès social, et de diriger le principe d'égalité comme fondement de la législation tunisienne. Donc, mais cela est venu aussi parce que la Tunisie s'inscrivait à l'époque dans une tradition de réflexion sur l'émancipation de la femme, réflexion intellectuelle qui avait été entamée par
Haddad,
le grand penseur Taher al-Haddad.
Oui.
Il y avait à l'époque, en 1937, la première organisation féminine tunisienne était fondée, l'Organisation musulmane des femmes tunisiennes, qui avait joué un rôle important dans le mouvement pour la libération de la Tunisie. Et donc c'est dans ce contexte à la fois politique, intellectuel, militant, que ces droits-là ont été donnés. On dit souvent que la femme tunisienne a reçu des droits,
voilà.
Mais
qu'elle les a pas arrachés, justement.
On a utilisé,
oui,
les femmes ont joué un rôle très important dans la lutte, comme je l'ai dit, la lutte pour l'indépendance. Et à l'époque, des leaders politiques éclairés ont trouvé qu'il fallait aussi que justice soit rendue à ces femmes.
Mais c'est ce qu'on disait justement, on n'a pas fait réagir encore nos invités plateau. Oui, la femme tunisienne n'a pas eu ses droits en les arrachant, mais parce qu'il y a eu effectivement, comme le disait Touria Amame, qui est toujours avec nous depuis Tunis, il y a eu une élite très éclairée, mais aussi il y a eu une volonté politique du leader Bourguiba à l'époque, Hella Ben Youssef.
Oui, bien sûr, on ne peut pas nier cela, mais oui, aussi Bourguiba, il a trouvé, c'est-à-dire le terrain était déjà préparé, et le mouvement féministe qui a précédé l'indépendance, il a débuté en 1920, donc le processus est déjà entamé. C'est vrai que Taher al-Haddad, comme le disait Touré tout à l'heure, en 1930, a eu le mérite donc de soulever auprès de l'opinion publique.
Et c'est un homme.
Et c'est un homme. Et c'est,
voilà,
il faut le signaler.
Souligner
le statut personnel donc de la femme, et sans oublier l'engagement de nos grandes militantes, leur participation aux côtés des hommes dans les mouvements émancipatrices, qui fréquentaient aussi les partis politiques et les organisations féministes mondiales, dont Pshira Ben Mrad, Nabiha Ben Millet, qu'il ne faut pas oublier aussi, et Radi Haddad,
oui,
et beaucoup d'autres femmes qui ont écrit l'histoire du mouvement féministe tunisien, sachant que Pshira Ben Mrad a été influencée par une grande militante égyptienne qui est Houdé Chari. Et on n'oublie pas aussi que l'Égypte a eu avant la Tunisie ce droit de vote en 1934, et aussi la Turquie qui était un des premiers pays, donc en 1947, où le mouvement féministe, en 1934 c'était la Turquie,
ah oui,
et 47 c'était le mouvement féministe égyptien,
voilà,
qui lui a réclamé l'amendement.
Et
de
on
la
fêtait en France à peine l'année dernière les 70 ans du droit de vote de la française. La
en Suisse, France, c'est 1944.
44, bien sûr. C'est, et la femme suisse
bien après
la tunisienne. C'est, je pense, important de le souligner. Alors justement,
pour l'anecdote, il y a encore des femmes qui ne peuvent pas voter.
Absolument, voilà. Alors, Baïda Ouezidi, justement, vous qui êtes membre de la FTCR, d'abord, comment vous vivez ces 60 ans? Et est-ce que les femmes, après la promulgation de cette loi, elles ont été nombreuses à se présenter aux urnes? Oui, non? Est-ce qu'il y a eu des candidates, justement, tunisiennes, juste après la promulgation de cette loi? Ou alors c'était encore timide et elles n'étaient pas tout à fait conscientes de l'enjeu d'un tel droit? Baïda Ouezidi.
Oui, je pense que, y compris les dernières élections de la ANC,
oui,
l'Assemblée nationale constituante,
oui,
le nombre de femmes est très très en dessous
de
ce qu'on attendait.
Oui.
Donc les femmes ne se mobilisent pas beaucoup, comme elles ne se mobilisent pas beaucoup en politique d'une manière générale.
Oui.
Et c'est pour ça que le rôle, en fait, des élites politiques a été très important en Tunisie.
Baïda Ouezidi nous fait quand même un diagnostic assez sévère et assez dur. Elle a raison de le faire aujourd'hui en disant que malgré ce droit, malgré les 60 ans, elle reste encore pas très peu nombreuse. Les dernières élections, l'électorat féminin, ça représentait quoi, Hella Ben Youssef?
Lizzie, elle n'a pas...
Est-ce qu'elles sont abstentionnistes plutôt ou elles participent?
Abstentionniste, mais elles ont participé quand même. C'est-à-dire, les chiffres qu'on a pu trouver, c'était pour les élections présidentielles, le taux de participation était de 50,5%, contre 47% en 2011 pour les législatives.
Il y a une évolution là. Voilà.
Il y a une évolution.
Oui, mais 50%, c'est significatif quand même.
C'est assez significatif.
Dire,
pour moi en tout cas. Et ça, par contre, au niveau rural, la femme a eu beaucoup de mal à aller voter.
Ah, voilà.
Et on a pu voir aussi que seulement 5000 femmes rurales sur les 300 000 n'ayant pas pu... seulement ces 500 000 femmes ont pu avoir une carte d'identité nationale pour pouvoir aller voter. Mmh. Il ne faut pas oublier aussi que les jeunes entre 18 et 21 ans, qui constituent 10% de la population en âge de voter.
De l'électorat, oui.
De l'électorat, il n'y a que 5% qui se sont inscrits.
Donc ça veut dire que les partis politiques ont beaucoup à faire justement pour aller chercher ces femmes dans la Tunisie profonde, Raouda Fawel, ou alors justement nous avons avec nous Madame Hamemi Touareg qui est avec nous depuis Tunis. Est-ce que les femmes ont été nombreuses historiquement à participer aux élections? Elles ont été très tôt, très conscientes de l'enjeu et de l'importance de ce droit?
Alors en fait, je pense qu'il faut un peu analyser le volet de la participation des femmes aux élections d'un point de vue historique avec deux périodes quand même, parce qu'on ne participe pas de la même manière dans le cadre d'élections libres et démocratiques que dans le cadre d'un contexte de vote falsifié.
On est bien d'accord.
Il y a des intérêts. Mmh. Donc en fait, je vais me concentrer sur la période post-révolutionnaire, donc là où on a eu des élections, nos premières élections libres et démocratiques. Les femmes se sont mobilisées, mais pas autant qu'elles auraient dû, pas autant que ce qu'on aurait attendu d'un pays comme la Tunisie.
C'est ce que disait Baïdja Ouezzinia, justement, à son moment.
Donc, où déjà, statistiquement, aujourd'hui, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mm-hmm. Les femmes ont accès à des niveaux très élevés d'éducation, où elles sont très présentes dans l'ensemble des métiers, mais où on a aussi découvert que, comme disait Hela, il y avait une très importante problématique des femmes rurales, d'accès de ces femmes rurales à l'enregistrement, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de carte d'identité, et donc et c'est pour des raisons aussi économiques, parce qu'avoir une carte d'identité, ça coûte à peu près l'équivalent de 12 euros en France, et ce n'est pas donné à tout le monde, ces 12 euros, que la question du déplacement le jour du vote posait problème, que
tout
certaines femmes étaient loin, n'avaient pas les moyens de transport pour se déplacer au bureau de vote. Et vous avez parlé du rôle des partis politiques pour aller chercher ces voix, mais c'est aussi au-delà du rôle des partis politiques, bien sûr. C'est aussi le rôle de l'ensemble de la société au niveau des instances, c'est-à-dire au niveau de l'instance indépendante des élections, l'ISI, et au niveau des organisations de la société civile. Et là, le travail qui avait été fait en amont était un travail très important, immense, qu'il faudra bien sûr faire évoluer. Il y avait énormément.
Ça veut dire concrètement, justement, pour faire participer également nos invités plateau, qu'on a beau faire de très très belles lois, et si bien sûr elles ne sont pas appliquées, s'il n'y a pas d'environnement favorable, eh ben ça risque de rester lettre morte. 60 ans après la promulgation du droit de vote de la femme tunisienne, il y a encore beaucoup à faire et nos invités sont en train de le dire avec beaucoup d'énergie et toute la force qu'on connaît chez la femme tunisienne. Hela Ben Youssef, justement, on a entendu Touareg Hamemi nous dire effectivement que la femme tunisienne, n'ayant pas encore sa carte, elle ne peut pas voter. Elles sont dans des zones complètement enclavées, elles ne peuvent pas se déplacer. Ça veut dire qu'on a eu une période sous la dictature de Ben Ali où il y avait effectivement réalité que tout le monde connaît, ça veut dire que les chiffres étaient falsifiés, mais aujourd'hui on a une réalité. Est-ce que les partis politiques font suffisamment pour impliquer davantage les femmes pour participer aux élections, d'autant plus que à la rentrée, donc en octobre prochain, il y aura effectivement les municipales et cette fois-ci vous avez pu arracher une autre avancée, la parité lors des prochaines municipales horizontales et verticales. Voilà, on va revenir sur ça, mais avant ça, dites-nous là où le bât blesse aujourd'hui pour permettre une plus grande participation de la femme à toutes les échéances électorales. Hela Ben Youssef.
On disait tout à l'heure, la Tunisie fête 60 ans de droit de vote de la femme. Aujourd'hui, on est en 2016. Il ne faut pas se leurrer. On a vécu pendant une période de dictature, et quand on dit dictature, donc on ne vote pas, il n'y a pas de démocratie, alors que le vote, acte civique dans un pays démocratique, n'existait pas en Tunisie. Mmh. De ce fait-là, il n'y a eu aucune sensibilisation, mmh. aucune éducation politique, ni éducation au vote, ni éducation à la citoyenneté en général. Mmh. Et il a fallu tout refaire en 2011, aller sur le terrain, sensibiliser, même que ce soit les femmes dans les villes, et encore plus difficile, les femmes rurales. Mmh. Et c'était un travail énorme de la part de la société civile et des associations qui étaient sur place à ce moment-là. Sous Ben Ali, l'apparence était un label publicitaire. Aujourd'hui, l'obligation légale ne leur laisse plus le choix. Par contre, il reste un paradoxe qui concerne la femme et son rôle dans la vie politique. Il existe un fossé entre les textes juridiques et la réalité, voilà. Malheureusement, qu'il faut continuer à travailler dessus. Et on n'oublie pas que bon, il y a une très grande avancée. Le 15 juin a été votée donc la loi qui permettrait aux femmes pour les élections municipales. La parité horizontale et verticale, c'est quelque chose de très très important. Mais on n'oublie pas qu'il y aura une très grande difficulté pour ces municipales. On a besoin de 7176 candidats pour les municipales, dans
et
la moitié
des femmes.
Des femmes.
Voilà.
Donc,
il faut aller les chercher.
Il faut aller les sensibiliser et leur expliquer réellement qu'elles, même si elles sont déçues
mais
par rapport à 2014
ou 2011, nécessaire mais pour
c'est nécessaire d'aller voter et de donner sa voix.
Donc, d'aller voter aussi, d'être éligible, de se présenter comme candidate, mais est-ce qu'elles ont la formation, j'ai envie de dire, nécessaire pour pouvoir être éligible? C'est là où le bas blesse, on va y revenir. Alors, Dafawel ou Baye Jaouazini, allez-y, alors Dafawel, vous voulez en dire?
Qu'on n'a même pas ce chiffre-là, les 7000 candidats aux élections législatives, on ne les a pas. Aucun parti politique aujourd'hui ne peut prétendre à un quota pareil de 7000. Mmh. Donc ça va être vraiment un travail difficile. En plus, ce n'est pas la formation des femmes là. Il faut les impliquer, il faut les encourager d'être partie prenante dans la politique. Et c'est ça le vrai problème.
Mais les encourager comment? Il y a quand même la réalité.
De l'impliquer davantage, lui laisser la place. Aujourd'hui, on a 3 postes politiques sur 30 occupés par des femmes. Que 3 postes. On a 3 femmes sur 30. Mm-hmm. C'est vrai.
Et souvent, les partis politiques vous disent que nous n'avons pas les profils. Il y a beaucoup de femmes qui, elles-mêmes, ne veulent pas y aller.
Oui, il y a une réalité de, oui. Au-delà des élections, au-delà de la politique au sens strict.
Oui.
Il y a une réalité sociale. Mm-hmm. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez des femmes, même celles qui s'engagent.
Oui.
Après, elles sont découragées.
Oui.
Parce que...
Par quoi ?
Parce que, par exemple, elle a la triple journée de travail.
Oui.
C'est-à-dire, vous travaillez, vous avez un engagement politique, et vous avez vos enfants, vous avez la cuisine.
C'était l'émission d'hier, les temps de vie des femmes, justement.
Donc, c'est quelque chose... Il faut une éducation, pas seulement vis-à-vis des femmes, mais aussi vis-à-vis des hommes.
Une réorganisation, carrément, de la société.
Donc, on ne peut pas demander aux femmes de s'engager dans la vie, dans les institutions, et dans la vie de manière... Égal.
Parce qu'elles n'arrivent pas à articuler en fait leur vie professionnelle
temps,
avec leur vie
et moi,
politique
je crois
et
que l'histoire du droit des femmes en Tunisie, mm-hmm. c'est une histoire un peu, comment dire, qui a été instrumentalisée.
Oui.
Et qui fait que, par exemple, il n'y a pas beaucoup de différence dans la vie sociale entre les femmes au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Mm-hmm. Mais par contre, il y a une image, comme ça, qui est promue par... par l'ensemble des acteurs au niveau de la région et au-delà pour dire que les femmes tunisiennes elles ont acquis des droits.
Mais alors, enfin,
d'abord il faut relativiser.
Lorsque vous nous dites ça, ça veut dire qu'il n'y a aucun texte, mais les textes sont là.
Non,
pour
textes,
le contrat que
non,
vous venez de
le
dire.
Texte il est là, mais il faut quand même voir le contexte. C'est-à-dire que
la parité n'existe pas en Algérie. Hein.
Non, je ne parle pas de parité.
Image. Non, je donne un exemple. Quoi.
La parité, par exemple en Tunisie, on a eu des femmes élues sous Ben Ali et elles ont toujours voté avec Ben Ali. Donc, si vous voulez, au niveau de du formalisme, il y a autant de femmes que d'hommes, par exemple. Ben Ali a fait beaucoup de lois dans ce sens. Et je crois qu'il y a quand même ce côté un peu pervers qui fait que les droits des femmes sont à usage externe. Oui, la Tunisie.
C'est une image qu'on renvoie.
Qu'on a envie aussi.
On
exagère. Par exemple, tout à l'heure, je vous entendais dire la Suisse relativement.
Après,
la Tunisie. Franchement, je suis fière d'être tunisienne et d'avoir des acquis, bien entendu. Mais seulement, il ne faut pas gonfler Et il faut les voir de manière dans leur contexte.
Vous dites, en tout cas, c'est un diagnostic assez intéressant. Vous dites qu'il ne faut pas amplifier parce qu'il y a du beau texte, mais il y a une autre réalité.
Non, il y a une réalité quand même. Les femmes rurales, franchement, quand on dit... Et il faut revenir à l'histoire aussi. Bourguiba, quand il a fait ça, il l'a fait aussi pour des raisons politiques, politiciennes aussi.
C'est clair.
Parce qu'il y avait un conflit entre ceux qui voulaient l'indépendance de la Tunisie, mais en solidarité avec les Algériens et avec le monde arabe, etc. C'est les Youssoufistes. Bourguiba a gagné. On n'entre pas dans le débat, la politique entre Bourguiba et Benyoussef. Seulement, Bourguiba a donné des garanties à la France. Et en essayant de vendre aussi cette image.
Il y avait derrière un calcul politicien, en fait.
Voilà, c'est-à-dire
un cadeau octroyé aux femmes.
L'image d'un parti moderniste, c'est comme ça se répète aujourd'hui aussi. Donc il y a ça. Nous, les femmes, on dit OK, même si c'est de l'instrumentalisation, il faut savoir utiliser ça.
Pourquoi pas ?
Pour nous. Mais en même temps, il faut être vigilant et dire il faut relativiser les choses. En Tunisie, il y a quand même une grande partie de la population qui ne vote pas, qui ne s'intéresse plus et qui n'a plus confiance dans les institutions.
Bah écoutez, c'est un diagnostic. Là, on a plusieurs générations, effectivement, sur ce plateau en termes d'âge. Et Nesrine Zaïbi, justement, qui fait partie des générations jeunes, relativement, une franco-tunisienne, elle est avec nous, Nesrine ?
Oui.
Vous avez suivi un peu le débat. J'aimerais savoir si vous êtes fière justement de cette date, aujourd'hui les 60 ans, la parité pour les prochaines municipales verticales et horizontales, aussi bien pour les municipales que pour les législatives. Vous avez entendu justement la version de Baïdja Ouizini qui dit attention, c'est juste une image qu'on veut renvoyer à l'Occident, mais la réalité en Tunisie c'est tout autre. Hein. Il y a encore la précarité, il y a encore des femmes abstentionnistes qui ne votent pas. Totalement.
Ah, je partage totalement son point de vue sur la question. Mais pour revenir rapidement, je suis aussi fière à la fois d'être binationale et de cette, en tant que féministe, hein, de cette avancée qui a été faite il y a de ça 60 ans.
Oui.
Le droit de vote aux femmes, c'est quand même quelque chose de formidable, surtout pour un pays avant-gardiste et progressiste comme la Tunisie. Donc moi, je peux que nous féliciter. Mais bien évidemment, je rejoins ma collègue qui vient de se présenter tout à l'heure, Majida, c'est ça ?
Baïdja Ouizini, oui.
Voilà, qui vient de dire parfaitement la situation en Tunisie. J'ai l'impression systématiquement que finalement, chaque année, on fête ce symbole qui est formidable en soi, mais on a l'impression que c'est un étendard pour dire aux autres vous voyez, nous, la condition féminine, nous sommes assez singuliers en la matière, et du coup nous sommes dans le progrès social et la réalité, elle est assez particulière et différente finalement sur le terrain. Moi, je l'observe de par ma famille, de par mes amis, de par les acteurs associatifs que je côtoie régulièrement en Tunisie et qui me disent que la situation, la réalité est tout autre. Donc, il y a une réelle dichotomie entre la volonté politique et puis finalement la réalité au quotidien. Donc, je partage le point de vue, effectivement, de Madida.
Mais pourtant, la réalité est là pour nous dire qu'effectivement, les femmes sont en train d'enregistrer de belles avancées. C'est vrai que le combat pour l'égalité n'est pas terminé, et le chemin est long, aussi bien pour la Tunisienne que pour le reste du monde. On le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, même en France. Hier, l'émission d'hier portait sur les temps de vie. Justement, c'est une étude sur laquelle planche le Conseil économique, social et environnemental, pour permettre justement l'existence de ces viviers qui sont absents justement au sein des formations politiques, et permettre aux femmes de postuler pour des postes de responsabilité, d'être présentes dans toutes les élections, être éligibles, d'être dans les conseils d'administration. Alors on marque une pause et on va revenir justement sur cette question de l'égalité fictive ou réelle avec nos invités et nos invités téléphone depuis Tunis et depuis la Bourgogne-Franche-Comté. À tout de suite après la pause. Les 60 ans du droit de vote des femmes tunisiennes, c'est en direct de Radio Orion, mais c'est dans Voix de Femmes, mais les voix, vous les avez entendues, la femme tunisienne jamais contente, et elle a parfaitement raison, bien sûr. On a entendu plusieurs voix nous dire, attention, il y a une amplification, la réalité tunisienne c'est autre chose, on a de beaux textes, c'est vrai, mais on est loin de la parité parfaite, effective, mais pourtant, quand même, la femme tunisienne, ça, c'est plus de 30% au sein de l'Assemblée aujourd'hui. on n'est pas dans la parité parfaite, elle n'existe pas même en France, voilà.
Exactement. Donc je veux pas dire que je suis pas d'accord avec Berija, mais il y a des indicateurs objectifs aujourd'hui qui font qu'en 2011 la représentativité des femmes était de 27%, oui. En 2014 elle est passée à 31%. En même temps,
on est dans des régressions en fait. Hein,
non, on a évolué. Et je voudrais répondre à par rapport à ce que dit Céline aussi, mais même en France, qui le droit de vote est beaucoup plus ancien, on a remarqué en mars 2014 pour les élections législatives, les élections municipales, pardon, oui. 35% des femmes inscrites ne se sont pas déplacées pour voter. Donc il y a un problème aujourd'hui de confiance entre le politique et le citoyen qu'il faut essayer de rétablir
avec les politiques d'une manière générale un peu partout dans le monde. Ouais. Mais en même temps, il y a des femmes qui créent la surprise. Vous avez vu les élections toutes dernières
en Italie, à Turin et à Rome.
Les maires, exactement. La capitale arrachée par une qui n'était pas une politique connue, hein, les 5 étoiles. Et puis bon, une avocate qui n'avait pas une expérience, je veux dire, politique connue et reconnue. Mais on est en train d'assister aussi à un nouveau mouvement et une nouvelle dynamique politique.
C'est dans cette perspective, la mairesse de Rome, elle a été élue parce qu'elle était inconnue. Les gens voyaient dans cette immaturité
politique.
Oui, mais il y a eu un commentaire en disant l'immaturité politique de cette femme était un atout et un gage d'honnêteté.
Oui.
Et donc ça, c'est très important aujourd'hui quand on voit les problèmes de corruption
en Italie, en
Tunisie aussi. Aujourd'hui, on souffre énormément. Mais je voudrais revenir, on ne peut pas nier les facteurs d'exclusion qui pèsent sur la femme aussi. Hein. Mm-hmm. C'est d'ordre institutionnel, culturel, économique. Ces difficultés entravent l'effort d'indépendance. Et pour ça, on voit aujourd'hui que les femmes poursuivent des études en Tunisie. Les résultats du bac dernièrement, la semaine dernière, démontrent que les filles se sont beaucoup plus...
toujours très bonne en termes de résultats.
Résultats par rapport aux garçons.
Elles disparaissent des radars.
Elles disparaissent, voilà. Oui. Mais c'est pour ça que depuis les années 80, on remarque que le taux d'activité en Tunisie des femmes est resté vraiment affreusement bas. Il est à 26%, alors que pour les hommes, il est à 68,7%. En même temps, on ne peut pas oublier le taux de chômage des femmes
qui frappe davantage Tunisie,
exactement,
oui.
Qui est à 22% par rapport à des hommes qui sont à 12,5%. Oui. Alors que les femmes en âge de travailler représentent la moitié de la population active. Ceci implique donc
des politiques plus volontaristes, peut-être. Est-ce que
il n'y a pas que les politiques.
Le président Badji Khaled Sebti a été porté par l'électorat
féminin. Par les femmes, exactement.
Mais bon, on voit par exemple dans les nominations, dans les toutes dernières, là concernant les gouvernorats, zéro femme.
Il y a zéro femme. Pendant la Troïka, on avait 3 gouverneurs. Aujourd'hui, on a 0 femme gouverneur.
On est dans une régression.
Et on a 3 femmes ministres, comme disait.
Et 3 femmes ministres, on est bien loin de la parité.
Et quand on parle du nouveau chef du gouvernement, on ne parle que d'hommes. On ne parle pas de femmes capables aujourd'hui peut-être de... Voilà, c'est-à-dire on ne discute même pas.
Oui, je voudrais dire juste un truc, franchement.
Oui,
sur l'actuel président qui a été élu par les femmes...
Démocratiquement.
Je pense que c'est une grosse escroquerie.
Ah.
Et qu'il a voulu jouer l'image de Bourguiba. Mm-hmm. Bon, il a réussi parce qu'il y avait des problèmes, parce que bon... on verra comment ça va évoluer.
Oui.
Donc, ce que présente aujourd'hui Béji Khaled Sebti, c'est plutôt l'ancienne Tunisie.
Mm-hmm.
Je veux dire, par rapport aux femmes, elles ont des exigences, mais je pense que c'est juste un problème de...
Mais pas dans son programme, quand même.
C'est pas dans son programme.
Ah oui, il a pas un programme des années 60, quoi.
Non, il a joué l'image de Bourguiba.
Oui.
Moi, je crois que c'est bien, je veux dire, d'instrumentaliser les choses tant que c'est dans notre intérêt. Mmh. Mais franchement, dire que c'est le parti pour lequel les femmes ont voté, je dois dire qu'il faut voir l'autre côté, de manière objective. Hein. Moi, je n'ai pas voté ni pour Nahda, ni pour machin. Mais Nahda aussi a autant de femmes. Donc, il ne peut pas non plus... il a voulu jouer l'image...
Autant de femmes, justement, et ils savent aller les chercher dans les coins les plus reculés de la Tunisie.
Et mieux que les autres parties.
Ça ne parle pas de l'impossible, en fait.
Oui, parce qu'il y a tout le travail de terrain, d'association, qui... qui est actif.
Qui a une implantation
effectivement,
à travers tout le territoire national.
Exactement, oui. Ça, on peut pas le nier. Donc, à nous, aujourd'hui, social-démocrates, de faire notre travail et d'aller sur le terrain, expliquer donc ce droit de vote, expliquer que la femme a tout intérêt à aller voter et que le vote est privé. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi aujourd'hui dans les régions rurales qui pensent que leur mari peut voter à leur place.
Oui.
Donc, à nous de faire notre travail. Et
le travail pédagogique que les formations politiques traditionnelles ne font pas, il y a une absence justement de travail de proximité. On citait l'exemple de Nardin. Nardin, pourtant, c'était un parti en exil, mais aujourd'hui, c'est un parti qui est présent sur le terrain. Et alors, pour les municipales, justement, il nous reste plus que 4 minutes à passer.
Justement, il ne faut pas oublier un acquis de la femme tunisienne en 2014. Oui. En 2014, on a une femme quand même qui a eu le courage de se présenter aux élections présidentielles. Oui. C'est la première femme, c'est une avancée aussi. Mm-hmm. Et j'espère que d'autres femmes se manifesteront et auront le courage de se présenter parce que c'est pas un poste qui est vraiment réservé qu'aux hommes.
Alors, on sait que la femme tunisienne, enfin les Tunisiens, que ce soit celle d'ici ou de là-bas, rêvent d'être justement d'avoir une femme présidente à la tête de cette république. En tout cas, c'est un rêve qui est caressé depuis longtemps. C'est vrai ou pas?
Pourquoi pas?
Et la Ben Youssef,
l'espoir fait vivre.
Être justement le pays
avant-gardiste. On voit qu'aux États-Unis aujourd'hui, c'est
avec Hillary Clinton.
Avec Hillary Clinton, on verra.
Mais c'est pas les compétences qui manquent en Tunisie.
Mais c'est pas le même impact parce que la Tunisie dans la région, comme elle l'a fait du temps de Bourguiba en 56 avec le code du personnel, pour que vous fêtez les 60 ans en août prochain. Et nous avons justement.
Je voudrais ajouter aussi, il faudrait que les femmes aient confiance
en elles
et dans les autres femmes aussi, parce qu'aujourd'hui,
suite
à l'adoption le 15 juin de la loi de parité horizontale et verticale, il y a certaines femmes qui pensent que c'est insultant pour la femme que cette loi est insultante pour la femme.
Pourquoi?
Parce que pour elles, à nous de par notre
c'est comme la loi des quotas. La loi des quotas. C'est une catégorie.
Mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement parce que
Les textes font bouger les lignes. Toria Mami Bekri et nous avons également Nesrine Zaibi. On va devoir conclure très très rapidement, une minute chacune. Alors pour un petit peu regarder vers l'avenir, parce qu'on a parlé du passé, c'est bien de rappeler l'histoire. Et vous avez une histoire très forte en matière justement de droits des femmes. Pour les prochaines élections, est-ce que ça promet ou alors non, on risque, c'est un leurre de dire que les femmes seront nombreuses malgré l'adoption de cette loi, la promulgation de cette loi qui permet effectivement une parité, j'ai envie de dire, qui va être exemplaire dans la région horizontale et verticale.
Écoutez, il est du devoir des Tunisiennes de faire vivre ces droits acquis. Vous savez, quand un droit, on ne le fait pas vivre, il finit par mourir, par nous être ôté. Et donc, c'est ce qu'il faut expliquer aux Tunisiennes. Juste très rapidement, parce que je demandais la parole depuis tout à l'heure, je voulais interagir avec ce que disaient Beïja et Nesrine, entre autres. La question, il faut faire très attention et il faut qu'on évite de retomber dans un féminisme d'État.
Oui.
Et aujourd'hui, ces droits, ces nouveaux droits que nous avons en tant que femmes, si elles ne profitent pas à toutes les femmes, toutes catégories confondues, si elles ne sortent pas d'une certaine élite, nous n'aurions pas fait avancer les choses.
Absolument.
Parce que ce dont souffrent les femmes tunisiennes, ce sont des inégalités au niveau du vécu et de l'exercice de ces droits-là. Et
clairement,
le féminisme, réellement, c'est ça. C'est faire profiter tout le monde de l'égalité. Donc aujourd'hui, c'est faire des efforts envers les femmes rurales, envers les femmes travailleuses dans des conditions très très difficiles. Hier, nous avons eu 3 femmes qui sont décédées dans un accident de bus qui les transportait à 5h du matin pour aller rejoindre leur usine. Donc aujourd'hui, la bataille, elle est sur cet ordre. Les prochaines élections, c'est des élections locales, et c'est aussi ça le challenge. C'est une occasion de faire reprendre confiance du Tunisien et de la Tunisienne dans l'action politique de proximité, justement.
Tout à fait.
Impliquer les Tunisiennes, dont ce qui les touche de plus près.
Très bien, parfait. Nesrine Zaïbi.
Aujourd'hui, un dernier mot, il y a deux lois importantes qui sont sur la table quasiment aujourd'hui. La loi sur l'égalité de l'héritage, une autre bataille pour l'égalité.
Alors, on aura l'occasion de revenir sur ça, ouais. C'est deux points importants.
La loi intégrale pour la lutte contre la violence contre voilà. les femmes, où là encore, les chiffres sont vraiment honteux pour un pays.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et on aura l'occasion de revenir sur ça. Hélène Ben Youssef, le mot de la fin, très rapidement. Nesrine Zaïbi ne l'a pas eu. Alors, il revient aux femmes de faire vivre leurs droits. C'est ce que disait depuis Tunis Madame Hemami Touraya, justement.
Exactement.
La balle est dans le camp des femmes.
La balle est dans notre camp et il faut qu'on reste vigilante et qu'on fait vivre
cette démocratie naissante. Nesrine Zaïbi, 30 secondes, allez-y.
En tant qu'élue, effectivement, d'un territoire semi-rural, semi-urbain, en étant binationale aussi, je peux croiser les données, je peux vous dire que quand même, on est quand même un premier pays dans le monde arabe qui a introduit l'objectif de la parité homme-femme dans les assemblées élues. Donc je crois...
Conclusion, ça y est, 30 secondes.
Qu'on va réussir, donc il faut que le peuple se réveille et qu'il s'accapare de ses...
Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire.
Alors, c'est la fin de l'émission.
L'histoire est largement à la portée de la Tunisie, appelons ses dirigeants à la prendre en main.
Voilà.